Chapitre 27. Dimanche. Après le repas qu'elle appelait le souper et que j'appelais le dîner, Sadie a voulu faire la vaisselle, mais je lui ai plutôt conseillé d'aller faire sa valise. C'était une petite valise bleue au coin arrondi.
Mais ton genou, mon genou tiendra le coup pour quelques assiettes.
Tu dois prendre la route maintenant si tu vas avoir une nuit de sommeil à peu près complète. 10 minutes plus tard, la vaisselle était faite, j'avais les bouts des doigts ridés comme des pruneaux, et Sadie était debout à la porte. Avec sa petite valise à la main et ses cheveux bouclant autour de son visage, elle m'avait jamais paru plus jolie.
« Jake, dis-moi une seule bonne chose de l'avenir. » Bizarrement, pas grand-chose ne m'est venu. Les téléphones portables? Les attentats suicides? Non, sûrement pas. La fonte des calottes glaciaires? Peut-être une autre fois. Puis, dans un grand sourire, « Je vais t'en donner 2 pour le prix d'une. » La guerre froide est terminée et le président est noir. Elle a commencé à sourire et puis elle a vu que je ne plaisantais pas. Sa bouche a béé de surprise. « Tu veux dire qu'il y a un nègre à la Maison Blanche ?»«
Oui, c'est ça. Même si à mon époque, ils préfèrent être appelés des Afro-Américains. »«
T'es sérieux ?»«
Oui, oui. »«
Oh mon Dieu !»
C'est ce que beaucoup de gens ont dit le lendemain de l'élection.
« Est-ce qu'il se débrouille bien ?»«
Ah, les opinions divergent. » Si tu veux la mienne, il se débrouille aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, étant donné la complexité des choses.
Là-dessus, je pense que je vais rentrer à Jody.
Elle a lâché un rire distrait. Dans un état second. Elle a descendu la rampe, fourré sa valise dans le réduit qui tenait lieu de coffre à sa coccinelle, puis m'a soufflé un baiser. Elle a ouvert la portière pour s'installer au volant, mais je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Je n'étais pas capable de courir. Le docteur Perry affirmait qu'il ne me fallait pas espérer le faire avant encore 8 mois, peut-être même 1 an. Mais j'ai dégringolé la rampe en boitant aussi vite que j'ai pu.
« Attends, Sadie ! Attends une minute !»
Mr. Kenopensky, mon voisin d'à côté, était assis dans son fauteuil roulant, emmitouflé dans un blouson, sa pile cardiaque Motorola sur les genoux. Sur le trottoir, Norma Witten marchait à petits pas vers la boîte aux lettres au coin de la rue, en s'aidant de 2 piquets en bois qui ressemblaient plus à des bâtons de ski qu'à des béquilles. Elle se retourna et nous fit coucou de la main en essayant de soulever le côté paralysé de son visage pour nous sourire. Sadie m'adressa un regard interrogateur dans le crépuscule.
« Je voulais juste te dire un truc, » je lui dis. « Je voulais te dire que tu es la meilleure foutue chose qui me soit jamais arrivée. »
Elle a ri et m'a embrassé.
« Idem, mon bon monsieur. »
Nous avons échangé un long baiser, qui aurait pu durer plus longtemps si un claquement sec sur notre droite ne l'avait interrompu. Mr. Kenopensky applaudissait. Sadie s'est reculée, mais m'a pris par les poignets.
« Tu m'appelles, d'accord ? Tiens-moi, c'est quoi ce truc que tu dis ? Branché ? » ?»«
Oui, c'est ça. »
Je te tiens branché.
J'avais aucune intention de la tenir branchée. Ni des quais, ni la police non plus.
Parce que tu peux pas faire ça tout seul, Jake. Tu es trop faible.
Je sais, j'ai dit. Tout en pensant, je ferais mieux de ne plus l'être.
Appelle-moi quand tu arrives, que je sache que tu es bien rentré.
Quand sa coccinelle a tourné le coin et disparu, Mr. Kenopensky m'a dit
« Faites attention à ce que vous faites, Amberson. Avec celle-là, vous avez tiré le bon numéro. »
« Je sais. »
Je suis resté encore un peu au bout de l'allée, le temps de m'assurer que Miss Witten revenait de la boîte aux lettres sans tomber. Elle est rentrée saine et sauve. Moi aussi. Mon premier geste fut de ramasser mon trousseau de clés sur le dessus de la commode et de passer en revue les différentes clés.
surpris que Sadie n'ait jamais pensé à me les montrer pour voir si elle réveillait ma mémoire. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas penser à tout. Il y en avait pile 12 en tout. Je n'avais aucune idée des serrures auxquelles étaient destinées la plupart d'entre elles, même si j'étais sûr que la Schlag était celle de ma maison de... Était-ce Sabatus? Je pensais que oui, mais je n'en étais pas du tout sûr. Il y avait une toute petite clé, gravée des lettres FC et du chiffre 775. C'était bien une clé de coffre-fort, mais quelle banque? La First Commercial? Oui, ça faisait nom de banque, mais c'était pas ça. J'ai fermé les yeux et scruté les ténèbres. J'ai attendu, quasiment sûr que ça allait venir. Et c'est venu. J'ai vu un chéquier dans un étui en simili-alligator. Je me suis vu l'ouvrir. Tout ça était étonnamment facile. Imprimé sur le premier chèque, il y avait non seulement le nom que je portais en terrain d'antan, mais la dernière adresse officielle que j'y avais occupée. 214 West Neely Street, appartement 1, Dallas, Texas. J'ai pensé, c'est là qu'on m'a volé ma voiture. Et j'ai pensé, Oswald. Le nom de l'assassin est Oswald Lapin. Non, bien sûr que non. C'était un homme, pas un personnage de dessin animé. Mais j'étais pas loin. « Je viens à ta rencontre, monsieur Lapin, » j'ai dit. « Je viens toujours. » Le téléphone a sonné un peu avant 21h30. Sadie était rentrée saine et sauve.
« J'imagine que rien ne t'est encore revenu, si ? » ?»« Je suis une enquiquineuse, je sais. » »«
Non, rien. Et tu n'as rien à voir avec une enquiquineuse. » Elle n'aurait rien à voir non plus avec Oswald Lapin, si j'avais un quelconque pouvoir en la matière. Ni avec la femme du lapin, qui s'appelait peut-être ou peut-être pas Marie, ni avec sa petite fille, dont j'étais sûr qu'elle s'appelait Avril.
Tu te fichais de moi quand tu m'as dit qu'un nègre était à la Maison Blanche, hein ?
J'ai souri. Attends un peu. Tu verras bientôt par toi-même. 18-11-63, lundi. À 9h tapante, les deux Ida sont arrivées. L'une jeune et jolie, l'autre vieille et redoutable. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Lorsque la plus vieille a considéré que j'avais assez grimacé, assez tressailli et assez gémi, elle m'a tendu une enveloppe en papier avec deux comprimés à l'intérieur. « Pour la douleur. » « Je ne crois pas que... » « Prenez ça !» qu'elle a dit, en femme de peu de mots. « Cadeau de la maison !» Je me les suis fourrés dans la bouche, collés à l'intérieur de la joue, j'ai avalé de l'eau, puis je me suis excusé pour aller aux toilettes où je les ai crachés. Quand je suis retourné à la cuisine, la vieille m'a dit « Progrès satisfaisant ? Surtout, pas d'efforts exagérés. Surtout pas !» On les a attrapés. Je vous demande pardon. Les salauds qui vous ont estourbi. Pas encore. Vous aviez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû. Je l'ai gratifié de mon plus large sourire, celui dont Christy disait qu'il me faisait ressembler à un présentateur de jeux télévisés shooté au crack. Aucun souvenir. Le docteur Ellerton est arrivé à l'heure du déjeuner, apportant d'énormes sandwichs au roast beef, des frites croustillantes luisantes de graisse et les milkshakes promis. J'en ai avalé autant que je pouvais et c'était plutôt pas mal. Mon appétit revenait. Mike a lancé l'idée de donner un autre spectacle de variété, m'a-t-il annoncé. Cette fois, à votre bénéfice. Mais en fin de compte, la raison l'a emporté. Une petite ville ne peut pas être sollicitée indéfiniment. Il a allumé une cigarette, lâché l'allumette dans le cendrier posé sur la table et inhalé avec enthousiasme. « Des chances que la police attrape les voyous qui vous ont fait ça ? Vous avez des nouvelles ? Non, rien. Mais je n'ai pas grand espoir. Ils m'ont soulagé de mon portefeuille, volé ma caisse, et se sont volatilisés. Que faisiez-vous dans ce coin de Dallas, au fait? Ce n'est pas exactement le secteur le mieux famé.
Eh bien, apparemment, j'y vivais. Aucun souvenir. J'allais voir quelqu'un, peut-être.
Est-ce que vous vous reposez suffisamment? Vous ne forcez pas trop sur le genou?
Non, non.
Mais j'avais dans l'idée que ça allait changer dans pas longtemps. Toujours sujet aux endormissements soudains?
Ça s'arrange un peu.
Impec. Je suppose que...
Le téléphone sonna.
« Ce doit être Sadie, j'ai dit, qui m'appelle pendant sa pause déjeuner. Je dois mettre les bouts de toute façon. C'est épatant de vous voir reprendre du poids, George. Dites bonjour à la jolie demoiselle pour moi. »
Je l'ai fait. Elle m'a demandé si un quelconque souvenir pertinent m'était revenu. Je savais à son choix de mots délicats qu'elle appelait du secrétariat principal du collège et qu'elle devait régler l'appel longue distance à Mrs. Coleridge. Outre sa fonction d'intendante du lycée de Denholm, Mrs. Coleridge avait de grandes oreilles qui traînaient. J'ai dit non. Aucun nouveau souvenir. Mais que j'allais faire une sieste et que j'espérais avoir du nouveau à mon réveil. J'ai ajouté que je l'aimais. C'était agréable de dire quelque chose qui était la pure vérité. Demander des nouvelles de Deke, puis je lui ai souhaité un bon après-midi et j'ai raccroché. Mais je n'ai pas fait de sieste. J'ai pris mes clés de voiture et ma sacoche et j'ai roulé jusqu'en centre-ville. J'espérais de toutes mes forces avoir quelque chose dans cette sacoche à mon retour. J'ai conduit lentement et prudemment, mais le temps que j'arrive à la First Corn Bank, mon genou me faisait encore atrocement souffrir. J'ai présenté ma clé de coffre au guichet. Quand mon banquier est sorti de son bureau pour venir à ma rencontre, son nom m'est instantanément revenu. Richard Link. Il a écarquillé les yeux avec inquiétude en me voyant boiter vers lui. « Que vous est-il arrivé, monsieur Humberson ?»«
Accident de voiture. »
En espérant qu'il ait loupé ou oublié l'entrefilet à la page fait divers du Morning News. Je ne l'avais pas vu moi-même, mais on me l'avait lu. Mr. George Humberson, de Jody, retrouvé inconscient après avoir été frappé et agressé, a été transporté au Parkland Hospital.
Je récupère bien. Je me réjouis de le savoir.
Les coffres-forts étaient situés au sous-sol. J'ai négocié l'escalier en sautant d'une marche à l'autre. Richard Link et moi avons utilisé chacun notre clé et Link m'a installé avec mon coffre dans l'une des cabines prévues à cet effet. Il l'a déposé sur un minuscule coin de bureau, juste assez grand pour le supporter, puis a désigné le bouton sur le mur.
« Sonnez lorsque vous aurez terminé. Melvin viendra vous assister. »
Je l'ai remercié et quand il est parti, j'ai tiré le rideau pour fermer la cabine. Nous avions déverrouillé le coffre-fort, mais sa porte était encore fermée. Je l'ai considéré fixement, le cœur battant fort. L'avenir de John Kennedy était dedans. Je l'ai ouvert. Sur le dessus se trouvait une liasse de billets et des bricoles provenant de l'appartement de Neely Street, dont mon chéquier de la First Corn. En dessous, il y avait un manuscrit dont les feuillets étaient réunis par deux élastiques. La ville assassine était dactylographiée sur la page de garde. Pas de nom d'auteur, mais c'était mon travail, pas de doute. En dessous se trouvait un carnet bleu. La parole d'Al. Je l'ai pris entre mes mains, empli de la certitude terrible que lorsque je l'ouvrirais, toutes les pages seraient blanches. Carton jaune les aurait effacées.
« Oh non, par pitié !»
Je l'ai ouvert. Sur la première page, une photo m'a renvoyé mon regard. Visage étroit, pas exactement beau,
lèvres ourlées en un sourire que je connaissais bien. Ne l'avais-je pas vu de mes propres yeux? C'était le genre de sourire qui disait « Moi, je sais de quoi elle retourne, et pas vous, pauvre minable. » Lee Harvey Oswald. Le pauvre égaré qui allait changer le monde. Les souvenirs affluaient tandis que je restais là, immobile, cherchant mon souffle. Ivy et Rosette dans Mercedes Street. Nom de famille Templeton, comme Al. Les petites sauteuses à la corde. Mon papa, il est marin, il conduit un sous-marin. Silent Mike, Holy Mike, chez Satellite Electronics. George de Morenchild arrachant sa chemise comme Superman. Billy James Hargis et le général Edwin Walker. Marina Oswald, la belle otage de l'assassin, debout sur le seuil de ma porte au 214 West Neely. « S'il vous plaît, excuse, vous voir mon mari ?» L'immeuble du Texas School Book Depository, le dépôt de livres scolaires. Cinquième étage, fenêtre sud-est. Celle avec la meilleure vue sur Dealey Plaza et Elm Street, à l'endroit où elle tournait en direction du triple viaduc. Je me suis mis à frissonner. Les avant-bras étroitement serrés sur la poitrine, j'ai empoigné le haut de mes bras. Le gauche, celui qui avait été brisé par le tuyau de plomb gainé de feutre, m'a lancé, mais je m'en foutais. J'étais heureux. La douleur me reliait au monde. Quand mes frissons ont fini par se calmer, j'ai transféré le manuscrit du livre inachevé, le précieux carnet bleu et tout le reste dans ma sacoche. J'ai tendu la main vers le bouton pour appeler Melvin, puis je me suis ravisé et j'ai revérifié le fond du coffre. Il y avait encore deux petites choses. L'alliance bon marché que j'avais achetée au prêteur sur gage pour corroborer mon histoire d'adultère chez Satellite Electronics. Le hochet de bébé rouge qui avait appartenu à la petite fille des Oswald. June, pas Avril. Le hochet a atterri dans la sacoche. L'alliance dans le gousset de mon pantalon. Je la jetterai sur le chemin du retour. Quand ce serait le moment, Sadie en recevrait une bien plus belle.